La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. D'où viennent les parfums, les arômes et les saveurs en cuisine? Quels mécanismes nous permettent de percevoir avec tant de finesse toutes les subtilités d'un plat? On passe en cuisine cet après-midi avec le physico-chimiste Raphaël Aumont. Il a publié aux éditions d'Uno Les papilles du chimiste et nous allons voir avec lui ce que comprennent des mécanismes chimiques du goût. Les scientifiques, ça permet d'innover en cuisine, de jouer sur les parfums et d'imaginer de nouvelles associations de saveurs. Ce dossier étant rediffusé, nous ne pourrons pas relayer vos questions comme d'habitude. La une de la science avec Axel Villard. Bonjour Axel.
Bonjour Daniel.
À la une aujourd'hui, l'expansion humaine qui contraint les autres mammifères à vivre la nuit.
Oui, éléphants, léopards, coyotes ou bien ours bruns, de nombreux mammifères ont adopté la nocturnalité pour éviter de croiser les hommes. Un triste constat que l'on commente avec le biologiste Pierre-Henri Gouillon.
Voilà pour le menu de cette tête au carré réalisé par Fanny Bohuon et préparé par Hannibal Wachi.
La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Bonjour Raphaël Aumont.
Bonjour.
Quand un chimiste décide de passer une tête en cuisine, il peut avoir des réflexions étonnantes. Par exemple, pour le chimiste que vous êtes, si ça sent bon, ce n'est pas forcément bon signe.
Et oui, on a tendance à rentrer chez des amis et se dire « ça sent bon chez toi, on va bien manger ouais. ». Mais moi, je dis souvent à mon ami, je dis « moi ça me fait peur parce que si ça sent bon, que va-t-il rester dans nos assiettes et dans les casseroles ?» Parce que tout est parti dans la pièce et moi, dans mon assiette, j'ai peur qu'il reste que des notes de fond, des vieilles notes aromatiques, mais pas forcément toujours très agréables, alors qu'on va perdre toutes les vapeurs, toutes les choses vraiment très parfumées et subtiles.
Et dans votre laboratoire, vous réfléchissez justement à la façon de garder ces bonnes odeurs, ces bonnes saveurs qui s'évanouissent dans les fumées de nos casseroles.
On va chercher des nouveaux ustensiles pour justement capter, comme vous le dites si bien, tout ce qui part en fumée. Mmh. Et donc par des techniques de distillation, etc. Donc chercher la nouvelle casserole de demain pour tout concentrer.
C'est votre rencontre en 2005 avec le chef étoilé Thierry Marx qui vous a décidé d'orienter vos activités de recherche vers les fourneaux.
Oui, c'est une rencontre magique il y a 10 ans avec Thierry. Et c'est vrai qu'on a monté le Centre français d'innovation culinaire à la Faculté des sciences d'Orsay. Et depuis maintenant, 5 ans, on opère pour chercher et réfléchir à la cuisine de demain, plus gourmande, plus saine, sans additifs et surtout donc plus sapide.
Saveurs, arômes et parfums, il faudra que vous nous disiez ce que ça veut dire, sapide. La science a du goût avec Raphaël Aumont dans La Tête au Carré. Quand l'homme prend toute la place au soleil, les mammifères du monde entier se réfugient dans la nuit. Une étude sur l'impact des activités humaines aujourd'hui à la une de la science.
Arrête tout noir !
Ta gueule !
Ta gueule !
Allez, dépêchez-vous, la nuit va se vautrer.
Arrête tout noir !
Ta gueule !
Ça va être tout noir !
Ta gueule !
Ta gueule ! Ça va être tout noir !
Un extrait du film RRR, cher à Fanny Bohuon, pour évoquer cette étude parue dans la revue Science en fin de semaine dernière. En étudiant les comportements de plus de 62 espèces, une équipe internationale de chercheurs montre que lorsque l'homme est présent sur un territoire, les mammifères concentrent la grande majorité de leurs activités la nuit. Alors qu'en son absence, ces animaux sont parfaitement diurnes. Un refuge, mais une adaptation forcée qui n'est pas sans conséquences. Axel, on en discute avec notre invité.
Oui Daniel, nous sommes avec Pierre-Henri. Henri Gouillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et spécialiste de l'évolution. Alors, quand on commence par citer ces animaux, on a les léopards du Gabon, les lions de Tanzanie, les éléphants au Kenya, les ours bruns en Alaska, beaucoup de gros prédateurs. Ça veut dire que l'homme a gagné la guerre de territoire contre ses grands concurrents?
Ah ben ça, il n'y a pas de doute. Hein. Il a commencé il y a longtemps. Je ne sais pas. On ne sait pas si les mammouths sont éteints du fait de l'action humaine ou si jamais ils ont réussi à faire ça tout seuls, mais en tout cas, dès le début, je pense que les humains et les gros animaux n'ont pas coexisté sainement, sauf quand les humains arrivaient à domestiquer les animaux en question.
Mais est-ce qu'on peut dire que la nuit est le dernier recours ?
Il reste deux recours. Les zones où il n'y a pas d'humains, il en reste encore quelques-unes. Et puis la nuit, et effectivement, on constate que la proportion d'activité nocturne augmente considérablement. Alors, c'est variable selon les espèces, mais qu'elle augmente considérablement chez un grand nombre d'espèces, plutôt plus chez les plus grosses, mais un peu chez tout le monde. Et évidemment, on va parler des ours et tout ça, parce que c'est ce qui frappe le plus l'imagination, mais c'est vrai aussi pour des souris... pour des tas de trucs beaucoup plus petits.
Alors oui, moi je voulais parler des éléphants d'abord parce que c'est des animaux qui ne sont pas du tout adaptés à la vie nocturne. Et là on voit qu'autour de certaines zones, ils peuvent concentrer jusqu'à 90% de leur activité la nuit. Ça implique quoi à long terme ? Ils ne voient pas bien la nuit tout simplement.
Alors ça implique deux choses, ça implique beaucoup de choses. Hein. On va pas pouvoir faire la liste complète parce
bien
que vu la complexité du fonctionnement des systèmes écologiques, dès que vous changez le comportement d'un truc aussi gros qu'un éléphant, vous allez agir sur tellement d'éléments que c'est pratiquement impossible d'ailleurs de tout prévoir. Mais enfin, ce qui est certain, c'est que ça va diminuer l'efficacité de la survie et de la reproduction de ces éléphants. Bon, qui n'ont pas besoin de ça étant donné ce qu'on leur fait déjà. Ça va provoquer une sélection en faveur des individus qui sont les plus aptes à se débrouiller la nuit. Donc on peut imaginer effectivement que progressivement les populations évoluent pour augmenter leur efficacité, leur vision nocturne, un certain nombre d'olfactions, etc. Donc il y aura une évolution, mais cette évolution, il faut bien voir que toute évolution due à la sélection a un coût. C'est-à-dire que on dit on sélectionne, et sélectionner c'est éliminer ceux qui n'y arrivent pas. Et éliminer ceux qui n'y arrivent pas, c'est non seulement perdre des individus, ce qui, dans le cas des éléphants, est embêtant parce qu'on est déjà souvent en situation limite sur le plan des effectifs, mais aussi perdre de la diversité.
Le fait qu'ils soient moins nombreux et que cette nouvelle pression de sélection s'exerce, est-ce que ça veut dire que c'est plus difficile de s'adapter quand on est une petite population ?
Exactement. Plus les populations sont petites, c'est quelque chose que Darwin avait largement remarqué et sur lequel il a beaucoup insisté, plus une population est grande, plus elle possède en son sein de diversité et plus du coup elle va pouvoir réagir à des difficultés en termes de sélection, c'est-à-dire que c'est quelque chose de bien connu chez les enseignants. Vous savez, quand vous sélectionnez, faut pas sélectionner sur trop de critères en même temps. Vous voyez, si vous cherchez le type qui est vachement bon en maths, mais aussi en chinois, et puis aussi très bon en piano, et puis en saut à la perche, très rapidement, vous n'avez plus personne. Donc c'est un peu la même chose avec les animaux. Si jamais vous essayez de sélectionner sur énormément de critères, et c'est ce qui se passe actuellement, on a le changement climatique, on a les changements d'utilisation des terres, on a ces stress liés à la présence des humains, et du coup le passage à une vie plus nocturne, et bien tout ça crée des sélections, et évidemment la proportion d'individus aptes à survivre à tout ça risque de devenir trop faible. Donc on a déjà des problèmes démographiques dans beaucoup d'espèces d'animaux, et en particulier de mammifères. Évidemment qu'on est en train d'en rajouter une couche avec ce genre de choses.
Axel.
Pierre-Henri Gouillon, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que les animaux qui avaient déjà trouvé refuge dans la nuit pour fuir ces grands prédateurs... vont disparaître ou alors vont retourner à une vie diurne ?
Alors, les animaux qui... Alors, premièrement, il n'y a pas que des prédateurs qui shiftent vers la nuit.
Beaucoup dans l'étude, quand même.
Oui, mais il y en a... Enfin, bon, j'ai l'impression que l'effet est encore plus fort chez les herbivores que chez les prédateurs dans l'étude. Hein. Donc, a priori, ça ne devrait pas avoir un effet si grave que ça pour ceux qui étaient déjà là la nuit, parce qu'ils vont se retrouver effectivement plus en contact avec des prédateurs, mais il y aura aussi plus de proies. Donc l'effet est difficile à deviner, disons.
Hein. Est-ce qu'on sait en combien de temps un changement de comportement comme ça se traduit dans les gènes ? Je veux dire, est-ce que la sélection opère au bout de 2-3 générations, ou on peut déjà le voir ? Les auteurs l'ont peut-être cherché d'ailleurs.
Non, je ne pense pas que les auteurs aient eu les moyens de chercher ça. Les auteurs n'ont pas étudié les animaux en question. Ouais. Ils ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils ont récupéré un très grand nombre d'articles étudiant les comportements des animaux. Et sur ce très grand nombre d'articles, qui représentaient effectivement tous les continents et les 62 espèces, si ma mémoire est bonne, et puis un très grand nombre d'écosystèmes, eh bien, ils ont constaté cette tendance forte et systématique. Donc, la vitesse d'évolution, franchement, on ne peut pas la connaître. Mais si jamais vous avez, comme il y a certains cas, moi j'ai trouvé incroyable, comme les antilopes, hein, ces hippotragues qui sont passés pratiquement d'un mode de vie diurne à un mode de vie nocturne, parce que dans certains cas, c'est juste des individus qui passaient la moitié de leur temps de veille le jour et puis l'autre moitié la nuit et qui shiftent un petit peu, mais il y en a d'autres, c'est vraiment, ils passent de diurne à nocturne. Dans ces cas-là, il est clair que dès la première génération, peut-être vous allez pouvoir voir une amélioration de leur vision nocturne, ne serait-ce que parce que vous allez éliminer vraiment les individus qui ont une mauvaise vue nocturne, et puis c'est tout.
Une dernière question, une minute, Axel, pour conclure.
Oui, c'était très rapidement. Est-ce que, par exemple, des lions pourraient devenir noirs avec un pelage sombre pour pouvoir chasser la nuit d'ici 200, 300 ans?
S'il en reste.
Si les hommes restent, s'il reste des lions.
Non, mais les lions chassent déjà la nuit.
Ouais.
Et je pense que la nuit, c'est pas très grave de pas être noir, hein, sincèrement. Donc,
ouais. Vaut mieux être rapide déjà pour chasser.
Je crois que avant que le pelage change, ce qui changera, c'est la vision nocturne et puis un odorat encore plus fin. Oui.
Je voulais juste ajouter une petite chose. À l'époque de la domination des dinosaures sur la planète, on sait que les quelques mammifères qui vivaient sur la Terre étaient nocturnes, car c'est la seule place qu'ils avaient trouvée dans les écosystèmes.
Nos ancêtres, donc.
Voilà, nos ancêtres. On est des mammifères, et est-ce qu'on n'est pas un peu devenu des dinosaures?
Voilà, on est devenu des dinosaures, des mammifères actuels. Enfin, heureusement, pour le moment, on n'est pas retourné à une quantité de mammifères aussi faible que celle de l'époque, mais effectivement, la question se pose de savoir à quelle vitesse les extinctions vont continuer, et à quelle même continuer, pas seulement continuer, mais accélérer. On sait que la vitesse d'extinction va accélérer, et je pense que c'est vraiment préoccupant de voir comment les humains actuellement ne savent pas gérer ces questions.
Merci beaucoup Pierre-Henri Gouillon et Axel, à demain.
À demain.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des trous noirs, on en connaissait des gros, des petits. Et bien maintenant, on en connaît un de masse intermédiaire. Loin d'être anodine, la découverte de ce nouveau type de trou noir à 150 millions d'années-lumière de la Terre ravit les astrophysiciens. L'équipe internationale de chercheurs qui l'a découvert, impliquant l'IRAP et l'Observatoire astronomique de Strasbourg, estime que ce trou noir de masse moyenne jamais observé auparavant permettra de mieux comprendre l'évolution de ces corps célestes mystérieux qui peuvent atteindre jusqu'à des milliards de fois la masse de notre Soleil. Selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé, certains jeux vidéo peuvent rendre dépendants les joueurs récurrents. L'OMS précise que cette forme d'addiction se manifeste entre autres par un détachement du joueur de son entourage, priorisant le jeu vidéo aux autres activités journalières, ainsi que par une augmentation du temps alloué au jeu alors que les conséquences négatives s'accumulent. De leur côté, les représentants de l'industrie du jeu vidéo déplorent que les études plus positives sur le sujet n'aient pas été prises en compte par l'OMS. Affaire à suivre, donc. Donc, peut-on parler de mini-séisme lorsque les supporters mexicains ont sauté de joie après le but de leur équipe contre l'Allemagne dimanche dernier? Bien que les ondes aient été enregistrées par les sismographes à Mexico au moment du but, les scientifiques réfutent le terme de mini-séisme. Le sismologue Samuel Auclair, que nous avons contacté, nous rappelle qu'on parle de séisme lorsqu'une rupture a lieu au niveau d'une faille en profondeur et que l'onde se propage jusqu'en surface. Dans le cas de l'explosion de joie mexicaine, le tremblement était bien plus localisé. Une chose est sûre, à défaut d'avoir fait trembler la Terre en profondeur, ce but aura fait vibrer tout un pays à l'unisson. Chaud devant, la chimie du goût dans un instant dans la tête au carré sur France Inter.
1, 2, 3, 4... I love the way it flows, I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. But I cannot say you'll hit through my guitar. She told me add the bass line, and everything will be alright. She told me that the groove is mine, it will take us through the night. But it's beautiful. You can't take this away from me. The way I hear the melody, the way it's bringing clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the way it's bringing clarity, running through me. I love the way it sings, all the joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I could never say no. You with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the bass line that everything will be alright. She told me that the beat is mine. It will rock us through the night. And where I go,
Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me.
C'était It Runs Through Me avec Tom Misch et la participation de La Soul sur France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
T'as trouvé du fromage. Et c'est tout un fromage. Tom de chèvre de pays. Il accompagnera merveilleusement bien mon champignon. Oh, ce romarin, avec, peut-être avec ce nectar d'herbes sucrées. Ah, il faut que tu goûtes à ça. C'est un petit goût de brûlé, fondu. Et c'est pas un goût de fumée, ça c'est certain. C'est du genre... Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le goût. Qu'est-ce que t'en dis? Comment tu décrirais ce goût, toi?
Foudroyant?
Oui.
Ah oui, ça peut être foudroyant, oui. Un goût en cuisine. Raphaël Aumont, auteur des Papilles du chimiste, c'est le titre de votre livre paru chez Dunod. Raphaël Aumont, vous êtes physico-chimiste à l'université Paris-Saclay et vous avez créé avec le chef étoilé Thierry Marx le centre d'innovation culinaire. Qu'est-ce qu'un scientifique comme vous peut apporter à un chef étoilé?
Bien. Tous les chefs, mais même les artisans, doivent innover. Celui qui n'innove pas, il meurt, il se fait dépasser, et donc il faut être toujours en quête d'innovation. Et pour innover, eh bien, il y a des stratégies d'innovation. On n'arrive pas le matin avec une feuille blanche en se disant « Allez, aujourd'hui, je vais inventer le nouveau Paris-Brest qui va me rendre célèbre. » Et donc, il y a des stratégies. Les chercheurs ont des cahiers de labo. Les cuisiniers ont des cahiers de recettes. Et c'est ce qu'on dit souvent avec Thierry. En fait, ça va être cette rencontre qui fait que, eh bien, il va falloir qu'un chef prenne vraiment les mêmes démarches d'un chercheur. Je note mes essais et je note surtout mes erreurs. Quand vous parlez avec un chef ou même des cuisiniers, souvent ils veulent que la recette fonctionne. Ils ont des cahiers de recettes qui réussissent. Moi, ça m'intéresse pas. C'est pourquoi ça a raté, pourquoi, tiens, ça retombe trop vite, pourquoi ça change de couleur. Et donc, on cherche le pourquoi et pas le comment. Et donc c'est cette rencontre magique avec Thierry qui avait cette même philosophie de chercheur finalement en lui. Et donc moi je peux apporter modestement des techniques, des explications. Et lui me fournit aussi beaucoup d'inspiration. Donc c'est vraiment donnant-donnant et gagnant-gagnant, je dirais, avec Thierry.
Et alors au-delà de vos travaux à vous, il y a des recherches étonnantes qui sont menées sur la perception des goûts. Vous en parlez, hein, vous en relatez quelques-unes dans votre ouvrage. On apprend par exemple que tous les sens jouent quand on goûte quelque chose, y compris l'ouïe.
y compris oui. l'oreille.
C'est un jeu d'émotions globales. Même on a entendu dans l'extrait de Ratatouille, ouais. c'est on manque de mots pour expliquer ce bonheur, ce plaisir, ce plat qui arrive. Voilà, un plat qui arrive au restaurant, c'est d'abord la vue. Faut que ce soit beau, faut que ça brille. Si on sent que c'est un petit peu mat, on se dit tiens, ça va peut-être être croustillant par ici, un peu collant parce que c'est brillant. Donc la vue déjà conditionne la perception. Et après, eh bien, il y a le toucher, alors par la fourchette, par les dents, par les doigts évidemment. Donc le toucher joue un sens extrêmement important, les textures. Et puis il y a, comme vous le dites très justement, l'ouïe. Parce que quand ça croque, quand ça croustille, la bouche est une cavité résonante qui va faire résonner un petit peu dans les oreilles. Et par exemple, donc Blumenthal, donc un chef à Londres, eh bien fait écouter des bruits de verre qui éclatent pendant que les gens mangent un millefeuille. Eh bien, ça paraît très croustillant. Des chips bruyantes, ça c'est une étude justement qui a été reportée par Charles Spence, eh bien des chips très bruyantes paraissent meilleures.
Ah oui.
À recette égale. Donc c'est vraiment rigolo. Et dans un avion, encore une autre étude rigolote, c'est l'avion, comme c'est assez bruyant, on est à peu près à 80 décibels, etc. Eh bien, on est peu sensible au sucre. Par contre, on va aller rechercher du salé et de la saveur qu'on appelle umami. On en reparlera un peu, ouais. C'est cette saveur un peu qui est ni sucrée, ni acide, enfin... Et la tomate, par exemple, est à la fois umami, cette fameuse cinquième saveur, et salée. Et c'est la boisson la plus commandée dans les avions.
Oui.
Est-ce que c'est un hasard? Je pense pas.
Voilà pourquoi on commande plus de jus de tomate à bord des avions.
Par exemple, voilà.
C'est incroyable. Et toujours dans ce registre-là, si on écoute le bruit des vagues quand on mange des huîtres, là
et
encore...
Eh bien là, c'est pareil, ça va être encore plus iodé. Parce qu'on est propagé, on est baladé au bord de mer. Ouais. Et donc forcément, on se crée un univers pendant la dégustation.
Ouais. Alors, les sens qui vous intéressent le plus, évidemment, en tant que physico-chimiste, ce sont l'odorat et le goût. C'est quoi une odeur pour un chimiste?
Une odeur pour un chimiste, ça va être une molécule aromatique, c'est-à-dire une molécule dont on est capable de ressentir, de percevoir, qui va exciter nos récepteurs. Ouais. Voilà. Donc, c'est une molécule qui va être volatile. Si je prends du parfum, si vous sentez mon parfum, c'est que cette molécule, elle est capable de s'évaporer à 30 degrés, la température de ma peau, aller parcourir la moitié de la pièce et rentrer dans votre nez et exciter certains récepteurs de votre nez.
C'est-à-dire qu'il faut que j'ai le récepteur. C'est-à-dire qu'une molécule
bon récepteur,
pour
oui.
laquelle je n'ai pas de récepteur, ce n'est pas une odeur,
vous ne la
même,
ressentez
si,
pas.
Même si elle existe.
Voilà, exactement.
C'est-à-dire que les récepteurs préexistent aux odeurs dans notre nez.
Voilà, et donc c'est pour ça que les rats, les chiens, les abeilles, l'humain, on n'est pas tous sensibles eh bien, au même spectre de molécules.
Vous dites quand même qu'on n'est pas si mal équipé que ça, hein. 1000 milliards d'odeurs, on peut capter 1000 milliards d'odeurs
on
différentes.
On est très très bien équipé et ce qui est paradoxal parce que le nez et l'odorat a été l'un des sens les plus dépréciés finalement par l'homme, alors qu'on a 4 gènes seulement pour la vue et 400 gènes pour l'olfaction. Parce que c'est vulgaire de sentir, de renifler, alors que pourtant c'est vraiment un sens très très précieux.
Et puis pourtant une odeur peut nous faire beaucoup d'effets. Alors d'ailleurs dans votre livre vous parlez de la truffe pour un parfumeur. Ouais. La truffe, si on commence à décomposer un peu ce qu'on
trouve, ça devient moins gourmand.
Ça devient moins gourmand. Vous l'avez en tête ce qu'il y a dans l'odeur de la truffe?
Il y a notamment de l'androstérol, donc alors ça c'est une molécule qui est on va dire la chimie un peu du désir, donc c'est une molécule mâle, mais ça va être un peu le mâle en rut. Hein, si. Et puis il y a même de l'indol, du scatol, c'est-à-dire des molécules qu'on va retrouver aussi dans des excréments. Mmh. Et donc ça, mais à petite dose, ça peut être intéressant dans un parfum. Il y a des très grands parfums, je vais pas les citer ici, mais qui utilisent un peu d'indole, un peu de scatole, parce que ça donne des sortes de profondeur, de rusticité, de molécules lourdes.
Oui, mais comment expliquer que la truffe ait autant de succès en cuisine quand on sait ce qu'il y a dedans? Parce que là, on le sent, c'est en grande quantité.
C'est un dosage, oui, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont vraiment très sensibles et qui détestent la truffe. Ouais. C'est soit on aime, soit on déteste, parce que justement, cet androstérol, là, cette hormone mâle, parce qu'on y est très très sensible, soit au contraire mais on est à double tranchant sensible. Quoi.
Alors il y a évidemment le sens du goût également, et là aussi, en vous lisant c'est formidable parce qu'on a l'impression avant de vous lire, on pensait savoir des choses et puis il y a des idées reçues qui tombent. Par exemple, déjà le nombre de saveurs, finalement on se rend compte que c'est beaucoup plus flou que ce qu'on pensait. Combien
c'est
il existe de saveurs?
C'est complètement flou, c'est-à-dire que pendant des années, des dizaines d'années, on a appris que la langue se coupait en 4 avec l'amertume au fond, le sucre devant, le sel un peu sur les côté, mais c'est complètement faux.
Ouais. Et il n'y a pas de cartographie de la langue aussi précise.
Il y a une cartographie qui a été publiée en 1901, qui a été mal traduite, et c'est sur cette erreur en fait qu'on a cartographié la langue en 4, qui justement, donc c'est Anne Gnig, qui a un Allemand, qui a montré qu'il y avait très très peu de variations entre les bords, l'extrémité et le fond de la langue. Alors, non seulement il n'y a pas que 4 saveurs, il y a cette cinquième saveur umami qui serait cette saveur japonaise qui vient un peu de l'algue, du glutamate notamment, les exhausteurs de goût, mais qu'on va retrouver dans la tomate, dans le parmesan.
Dans le comté, vous dites.
Dans le comté, dans l'agneau du présalé. Ouais. Donc finalement, c'est pas une saveur si japonaise que ça. Et ouais. Là, elle est connue depuis 1901. Et alors, extrêmement intéressant, mais c'est très, très récent aussi, hein, en 2015. On a découvert qu'on avait des récepteurs sensibles à la matière grasse. Donc on ressent les matières grasses comme on ressent le sucre, le sel, l'amertume. Mmh. On a aussi des récepteurs de la température. Oui. Mais donc ça veut dire qu'il y a des aliments intrinsèquement froids. Vous mangez de la coriandre, du gingembre, du concombre, ça vous donne de la fraîcheur en bouche. Mais c'est des vrais récepteurs.
Donc on a la saveur gras oléogustus.
Oléogustus, hein. Oléogustus. Voilà, c'est ça, le goût du gras.
Ça, ça pourrait intéresser l'industrie agroalimentaire.
Alors ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi ? Parce que quand on a compris comment fonctionnaient les récepteurs du sucre, on a été capable de créer des édulcorants, c'est-à-dire des molécules qui étaient acaloriques, mais qui nous comblaient, qui comblaient nos récepteurs, et donc qui finalement donnaient un message intéressant au cerveau, d'un air de dire « ça y est, t'as mangé du sucre, t'es rassasié ». Actuellement, l'agroalimentaire, pour tous les produits light, joue que sur la texture. Donc on met de l'eau et on met des épaississants. C'est un peu caricatural, mais c'est ça. Et donc on compense la matière grasse par de l'épaisseur en bouche et de la viscosité. Or, maintenant qu'on sait qu'on a des récepteurs spécifiques, on va pouvoir créer des molécules comme des édulcorants spécifiques à nos récepteurs de matière grasse. Et on va arriver à satiété avec nos récepteurs de matière grasse. Et là, il y a tout un champ nouveau qui va pouvoir s'ouvrir.
Et puis vous parliez donc de cette saveur thermique. Alors là encore, on peut, alors une fois c'est qu'on génial. Sait ça, le chimiste et le cuisinier peuvent s'amuser parce on peut faire du chaud avec des saveurs froides et inversement.
Et là, on a commencé à s'amuser avec Thierry là-dessus justement parce que par exemple, vous prenez du chocolat qui est quand même un corps un peu gras, qui est chaud. Hein, c'est des épices, c'est chaud. Vous rajoutez le chocolat, se marie très bien avec la menthe ou avec le concombre. La menthe.
Avec le concombre.
Avec le concombre. On en reparlera si vous voulez des nouvelles associations de saveurs. Le concombre, comme la menthe, comme l'estragon, comme le gingembre à faible dose, c'est des molécules, c'est des aliments froids. Donc, ils vont vous donner de la fraîcheur en bouche. Et là, déjà, vous avez un problème un problème voulu et volontaire, qui va vous exciter un peu les papilles, entre ce chocolat chaud et puis cette menthe qui va vous donner une menthe glaciale. Mmh. Et vous pouvez exacerber ça avec, par exemple, du xylitol, c'est un extrait du bouleau, d'un arbre. C'est des petits cristaux de sucre, mais peu caloriques, qui ont besoin de chaleur pour fondre. Et ils vont prendre la chaleur dans votre bouche, et donc ça va baisser encore la température. Et vous avez un vrai effet de froid en bouche et de frais. Oui. Donc là, on peut vraiment jouer sur les textures, les saveurs et les sensations thermiques. Et ça, je termine juste là-dessus, parce que je cite souvent Thierry Marx. Thierry dit... La cuisine, c'est un jeu de texture et de température. Bah là, on est en plein dedans avec ces recherches.
Oui. Avec aussi ce que vous appelez les illusions gustatives. On joue les paradoxes, on va mélanger le sucré, le salé. Vous êtes capable, en tant que chimiste, d'expliquer pourquoi on est à ce point addictif au caramel au beurre salé.
Bah oui, on va perturber, parce que, par exemple, le caramel au beurre salé, c'est extrêmement intéressant. Vous avez le sel qui va faire des impulsions un peu électriques, rapides, qui va vous exciter les papilles de façon assez violente, qui va vous faire saliver. Et puis à côté, vous contrebalancez tout de suite avec du sucre, et puis donc de la rondeur, et cette rondeur elle est exacerbée par le côté beurre salé, donc on vient justement de parler des récepteurs de gras, et bien tout ça va faire de la rondeur en bouche, de la persistance, et donc finalement c'est un produit magique, le caramel au beurre salé, quand on commence à le manger, parce que on peut plus s'arrêter, et c'est vraiment le but en fait.
On a encore plein de choses à se dire, notamment sur ces associations, ces saveurs que l'on peut mélanger et créer justement de nouveaux goûts. Vous vous attachez aussi à décrire finement les transformations physiques et chimiques qui ont lieu dans nos casseroles, et on va voir que ça permet là encore d'innover. La science a du goût avec Raphaël au monde dans la tête au carré.
Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux, je veux les deux sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends. Qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux. Que tes beaux yeux. Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoires. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux. Je veux tes yeux.
C'était Angèle sur France Inter.
La tête au carré, Daniel Fievé.
En l'an 2000, que mangerons-nous alors ?
Pour manger un beefsteak, on aura une pilule. Ça ira plus vite.
Peut-être la salade ne sera pas pareille.
Ça sera comment ?
Tête bleue.
Des enfants que l'on interviewait dans les années 60 et à qui on demandait ce que l'on mangerait en l'an 2000. Raphaël Aumont, physico-chimiste, est l'invité de La Tête au Carré. Il signe chez Duno un livre intitulé « Les papilles du chimiste ». Alors, la cuisine du futur innovante, on a toujours tendance à imaginer qu'elle va déboucher sur des choses peu ragoûtantes, comme une salade bleue par exemple. Ça me permet d'ailleurs de vous poser tout de suite la question de Pauline qui est arrivée sur la page de l'émission, Raphaël Aumont. Rechercher des goûts artificiellement ne se fait-il pas au détriment de la sécurité alimentaire? C'est un peu toujours le procès qu'on oppose à cette nouvelle chimie culinaire.
Oui, alors nous, c'est pas du tout le propos qu'on a justement avec Thierry. On part du principe que la nature nous offre des choses merveilleuses, aussi bien en termes d'additifs que d'additifs naturels. Hein, c'est-à-dire, vous regardez une orange, il y a plein de gélifiants dans une orange, c'est des pectines. Pourquoi aller acheter des pectines artificielles ou modifiées? Et là, la question de Pauline est très juste, c'est-à-dire, pourquoi en chimie créer des molécules aromatiques synthétiques alors qu'on peut aller mieux comprendre ce qu'est un zeste d'orange. Par exemple, vous regardez la vanille. La vanille, la vanilline est l'une des molécules responsables de ce goût vanille. Mais c'est pas la seule. Dans une vanille, il y a 300-350 molécules aromatiques. Donc c'est une caricature de considérer que vanille égale vanilline. Et les chimistes ont compris où étaient les récepteurs, entre guillemets, vanille. Et donc, on crée l'éthylvanille, qui est une molécule synthétique, artificielle, qui n'existe pas dans aucune gousse de vanille dans le monde, mais qui donne un goût vanille au cerveau 100 à 500 fois plus puissant. Mmh. Quel est l'intérêt de faire ça? À part modifier nos palais, et en plus, effectivement, on n'a pas forcément de retour, c'est comme les édulcorants d'ailleurs, assez de recul sur la santé. Donc moi, je ne travaille pas pour ce genre de personnes.
Oui, on a bien fait de le préciser.
Ouais, bien sûr, parce
que
effectivement, il y a des chimistes qui, au contraire, se disent, bah tiens, voilà, la cuisine, c'est qu'une affaire finalement de molécules, je vais inventer des molécules et je mangerai plus de bananes, je mangerai plus de framboises, parce que au labo, je suis capable de faire une molécule qui a goût de framboise. Ouais. Sauf qu'une framboise, c'est 350 molécules. Ouais. Et alors, ok, vous pouvez faire la bêta-ionone, par exemple, qui a goût de violette. Mais vous mangez une violette, il y a quand même toute une subtilité que vous allez perdre. Ouais. On parlait de la vanille, vanille de Tahiti, vanille de Madagascar, vanille bourbon. Eh bien, tout ça, c'est des profils différents. Et donc, on ne peut pas réduire à la vanille. C'est vraiment une caricature. Ouais.
Et puis, comprendre les réactions chimiques, ça peut être aussi comprendre des gestes très traditionnels que l'on fait depuis très longtemps. Par exemple, vous expliquez dans votre livre pourquoi ça a du sens de mettre du citron sur du poisson du point de vue chimique.
Mais oui, voilà. Par contre, ça va contrebalancer certaines molécules un peu ammoniaque. Vous savez, quand on cuit du poisson, souvent on se dit oh là là, au secours, ça sent mauvais, ça sent même un peu l'urine d'ailleurs dans le poisson. Il y a des molécules communes ammoniaques. Et donc pour éviter ça, on peut jouer sur de l'acide citrique qu'on va retrouver dans le jus de citron, qui va tuer entre guillemets ces molécules aromatiques.
Et quand on cuisine, on opère des transformations chimiques des aliments. Là aussi, vous êtes capable de nous dire pourquoi. Si je cuis mes légumes dans deux eaux différentes, dans deux casseroles différentes, et que je mélange les bouillons à l'arrivée,
pas les mêmes goûts,
le goût ne sera pas le même que si j'ai cuit tous mes légumes dans la même casserole dès le départ. Ça s'explique chimiquement.
Et ça s'explique. Oui, exactement. Et par exemple, alors ce que vous dites sur les légumes, ça va être des réactions de Maillard. Et nous, on a proposé des réactions de Maillard, on va dire végétales. C'est-à-dire qu'on se dit toujours en réaction de Maillard. Donc, c'est la couleur de la viande, c'est le pain grillé, c'est cette note un peu torréfiée, etc. Mais si, donc, c'est la réaction entre des protéines et du sucre. Quand les deux se rencontrent, en chauffant, eh bien, vous créez plusieurs. Alors, vous créez des pigments. D'ailleurs, c'est pour ça que le pain brunit, c'est la croûte de pain, que le steak devient un peu brun, et c'est ça qui va donner donc de la couleur et des nouvelles molécules aromatiques. Mais ça marche aussi pour les végétaux. Par exemple, si vous prenez des pois chiches, eh bien, c'est très très riche en protéines. Si vous prenez des carottes et des oignons ou des tomates, c'est riche en sucre. Si vous mélangez les deux et que vous les mettez à cuire ensemble à haute température, vous allez faire des réactions de Maillard végétales. Et si après vous, comme on dit en cuisine, vous mouillez à hauteur, c'est-à-dire vous rajoutez de l'eau et vous laissez réduire, vous allez capter toutes ces molécules et vous allez avoir un bouillon qui va être beaucoup plus intéressant parce que les deux molécules se seront rencontrées.
Et quand on comprend ce qui se passe du point de vue chimique dans la casserole, on risque moins de laisser s'envoler bêtement certains arômes. Là aussi, on apprend en vous lisant qu'il y a des tas d'arômes très frais qui sont
très
justement dans les légumes,
oui.
Mais qui... À partir de certaines températures, disparaissent totalement.
C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, justement, de répertorier et d'avoir cette approche de parfumerie culinaire. Je propose ce terme de parfumerie culinaire parce que j'y suis très attaché. Par exemple, si vous regardez, on prend deux recettes de, je sais pas, crème pâtissière ou crème brûlée. Une avec au citron et l'autre à la vanille. Dans les deux cas, on nous dit de prendre du lait et de mettre des zestes de citron ou des gousses de vanille à bouillir, de laisser infuser, puis après de mélanger sur jaune d'œuf, sucre, etc. Bon, après, c'est le reste de la recette. Alors vous dites, la vanille, ça a du sens de la mettre à bouillir dès le début. Pourquoi ? On parlait de la vanille tout à l'heure. Cette vanille, elle tient à plus de 280 degrés. Ce qui veut dire que plus vous allez chauffer cette vanille, plus ça va libérer les molécules aromatiques. Et votre lait sera de plus en plus parfumé avec la vanille. Vous voyez, on parle toujours de parfum, elle est parfumée. Au contraire, les zestes de citron, c'est aberrant de les mettre dès le début à bouillir. Pourquoi ? Parce que le limonène qui est présent dans les zestes de citron d'orange part à 48 degrés. Donc dès que vous chauffez, ça sent le citron dans la pièce. Et alors, c'est ce qu'on disait en introduction, si ça sent bon le citron, est-ce que mon lait va avoir goût de citron ? Donc vous voyez, ça, pour faire une crème brûlée à la vanille, je vais conseiller de mettre la vanille dès le début. Si je veux faire une crème brûlée au citron, je vais mettre à bouillir le lait, je vais mettre sur le jaune d'œuf, etc. Et en dernière minute, je vais râper mes zestes de citron pour garder cette fraîcheur.
Est-ce que vous venez de dire, c'est valable pour toutes les herbes aromatiques, hein, coriandre, estragon, aneth, ciboulette, basilic, cerfeuil, à partir de 45 degrés, tout s'évapore.
Et oui, dès 45 degrés, il y a plein de molécules, toutes ces fraîcheurs que vous allez perdre. Et les furfurales, c'est pareil, vous avez vers 60 degrés par exemple, ces notes un peu de pain grillé, de choses comme ça, ça va partir très vite aussi. Et l'hexanol par exemple, alors l'hexanol c'est quoi ? C'est une molécule à 63 degrés à part, c'est une molécule qui va donner ce goût de note fraîche. Vous savez, la fraîcheur d'une salade, la fraîcheur du concombre, la fraîcheur d'une salade, de haricots verts par exemple. Eh bien, toutes ces notes chlorophylles vont partir à 63 degrés. Donc quand vous faites une soupe et qu'on met à bouillir pendant 20 minutes, mais qu'est-ce qui reste de nos légumes ? Des fibres. Et puis, pas grand-chose en termes de saveur.
Alors, qu'est-ce qu'on retient de ça ? On retient qu'il faut surtout ajouter le persil à la toute fin de la cuisson,
voilà,
une fois qu'on a retiré la casserole du feu.
Toutes
et pas,
les herbes
et pas
aromatiques à la fin. Ouais. Ça, c'est vraiment... Et c'est du bon sens que, par exemple, les Indiens, ils cuisinent et en dernière minute, ils mettent la coriandre coupée sur le plat parce que, justement, c'est ces vapeurs qui vont remonter.
C'est pas valable pour le bouquet garni qui, si j'ai bien compris, lui, on peut continuer à le mettre au début de la cuisson. Ça a du sens.
Le thym et le laurier, ça tient à plus de 230 degrés.
Ouais. Mais... On comprend tout. On sait pourquoi on fait les choses une fois qu'on a essayé de comprendre chimiquement.
Mais c'est toujours, oui, merci pour ce compliment, parce qu'effectivement, c'est se dire, je vais regarder la cuisine, quand je cuisine, je vais garder ce côté plaisir, ce côté émotion, ce côté création avec un chef, mais je vais me dire, mais pourquoi je fais les choses, et est-ce que dans ma recette, il faut vraiment que je fasse petit 1 avant petit 2, et si je fais petit 2 avant petit 1, est-ce que c'est très grave, ou est-ce que c'est pas mieux. Mmh. Et donc c'est se dire bah voilà, la carotte quand est-ce que je la mets, les oignons, l'ail, si je veux qu'ils soient piquants, je le mets à la fin, si je veux perdre le côté piquant, j'ai intérêt de le mettre au début, etc., etc. Et donc on a cartographié comme ça certaines réactions, on parlait de la réaction de Maillard, il y a les caramélisations, il y a le brunissement, les oxydations, enfin bref, un peu toutes les grandes réactions en cuisine, et puis toutes les grandes familles de molécules, les herbes aromatiques, et c'est pour ça qu'on en vient finalement à la parfumerie culinaire.
Ouais. Avec cette tête, pyramide aromatique qui permet de s'y retrouver.
On peut parler de notes de tête. Ouais. Donc tout ce qui est citron, les herbes aromatiques, la coriandre, etc. Les notes de cœur, donc plutôt les chlorophylles, etc. Et puis les notes de fond, qui, par exemple, la vanille, le thym, le laurier, qui, eux, on sait qu'ils vont rester au fond de la casserole, avec un petit jeu de mots.
Alors, vous innovez beaucoup avec Thierry Marx, on l'a entendu, et lui n'hésite pas à utiliser des techniques nouvelles. Exemple, ici, avec un concombre.
On va tout utiliser du concombre, la peau, donc sa déstructuration totale, donc sa peau, ses viscères, toutes ces petites parties, finalement, qui sont souvent jetées et qui sont très très bonnes. Le jus du concombre qu'on a eu par cryo-extraction, c'est-à-dire extraction par l'azote, on a trempé le concombre dans l'azote extrêmement frais, ensuite on l'a centrifugé, on a récupéré une pulpe qu'on a mise sous pression avec un CO2 pour avoir un petit pétillement du jus de concombre, une petite effervescence comme ça. Si vous vous contentez d'aller voir ce qui a déjà été écrit et que vous considérez ça pour vrai, vous avancez pas, c'est de l'obscurantisme. On peut parler de cuisine moléculaire traditionnelle, ça n'a pas d'intérêt si c'est pas dirigé vers le plaisir.
Thierry Marx, interviewé dans l'émission 100% Mag sur M6. C'est fou ce qu'on peut faire avec un concombre, hein, des hautes pressions, de la cryo-extraction. Qu'est-ce que c'est que ça?
Je reviens juste sur ce que dit Thierry, c'est-à-dire c'est pour le plaisir avant tout, pour des nouvelles émotions. Et après, on oublie la technique. C'est ça qui est magique quand on mange chez Thierry, c'est qu'il y a un plat qui arrive et on soupçonne pas que le jus a été cryo-extrait. Mais vous goûtez et vous dites... Waouh, mais c'est incroyable ce jus de concombre. Pourtant, il est réduit. On sent qu'on a enlevé un petit peu l'eau. Il y a un goût extrêmement puissant. On a l'impression de manger trois concombres en une bouchée. Et pourquoi? C'est la technique au service de l'émotion culinaire.
Et c'est quoi alors cette technique? La cryo-extraction?
La cryo-extraction, la cryo-distillation. Vous connaissez la distillation. Quand vous chauffez du vin, c'est d'abord l'alcool qui s'évapore et qui va emporter avec lui toutes les notes aromatiques, justement, fragiles. Et après, vous allez récupérer l'eau parce que la température d'ébullition de l'alcool n'est pas la même que la température d'ébullition de l'eau. Mmh. Eh bien, on peut faire la même chose avec le froid. C'est-à-dire que l'eau pure congèle à 0 degré, l'eau sucrée, l'eau salée, l'eau enrichie d'arômes et de parfums naturels, eh bien, va congeler à plus basse température. Et en jouant sur les différences comme ça, donc vous prenez ce concombre dont parlait Thierry, eh bien, si vous travaillez à moins 3, moins 4 degrés, vous allez congeler l'eau pure, pas très intéressante, mais par contre, l'eau enrichie d'arômes, elle sera toujours pas congelée. Et donc, vous la gardez et vous distillez par le froid.
Oui, c'est-à-dire qu'on arrive à enlever le supplément d'eau, ou en tout cas une partie de l'eau, mais sans avoir à chauffer.
Exactement. Donc on peut aussi, alors, je vous ai apporté une petite surprise.
Ah,
Eh bien, ça, c'est de l'eau de chocolat.
Alors, c'est dans un petit bocal en plastique.
Voilà, du chocolat noir incolore.
Effectivement, ça sent très très fort
le chocolat.
On vient
de faire ça et on va le présenter demain au salon du chocolat.
Alors, c'est translucide, c'est vraiment de l'eau, c'est-à-dire que...
On a capté, grâce à l'eau, grâce à des techniques de distillation, de micro, enfin, et tout un tas de techniques un peu complexes, mais on a capté toutes les molécules sapides, aromatiques du chocolat, dans ce petit flacon. Et il se trouve qu'on n'a pas les pigments, donc on a un chocolat noir incolore. Mais on a toutes les molécules aromatiques très importantes. Quand vous mettez à bouillir, quand vous faites du chocolat au lait chez vous, ça sent le chocolat. C'est toujours pareil. Donc nous, on a tout récupéré, ce qui traînait dans la pièce.
C'est assez incroyable, hein, parce que pour l'auditeur, c'est comme si vous aviez un verre d'eau devant vous et vous sentez, ça sent plus fort que n'importe quel chocolat.
C'est concentré, cryo-concentration. Voilà, on en parlait. Je vous ai pas amené du concombre, je vous ai apporté du chocolat, parce qu'en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'il est complètement incolore.
Allez, à la fin de votre ouvrage, vous livrez une dizaine de recettes originales issues de vos expérimentations. On compte sur vous pour nous en donner une dans un instant. Et puis, vous répondrez aux questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous sur la page de La Tête au Carré.
Tâter la main sœur qu'on devine. il y a foule à Rome. Dans la foule romaine, il y a foule.
C'était Foule romaine de Jean-Louis Murat. La programmation musicale de La Tête au Carré est signée Thierry Dupin.
La Tête au Carré sur France Inter.
Je vais t'enseigner c'est quoi la nourriture. Ferme les yeux. Tiens, mâche lentement. Concentre-toi sur le goût. Hein, tu vois?
Pas encore.
Crémeux, salé, fruité, un goût de chêne, de noix. Tu détectes ça?
Ah oui, je connais ça, les noix.
Ferme les yeux. Maintenant, goûte à ça. Oh, tout autre chose, hein. Sucré, frais, avec une touche d'agrumes à la fin.
Ok.
Maintenant, essaie les deux ensemble.
Ok. Ok, je pense que je sens quelque chose. Ça pourrait être bien, hein.
Tu vois.
Ou bien l'agrume.
Voilà. Maintenant, imagine toutes les bonnes saveurs au monde mélangées en d'infinies combinaisons. Des saveurs que personne ne connaît encore. Toutes sortes de découvertes à faire.
Un nouvel extrait du dessin animé Ratatouille. Je vous voyais sourire, Raphaël Aumont. Vous publiez Les Papilles du Chimiste aux éditions Dunod. Vous êtes pour ces associations de saveurs, ces créations de saveurs que personne ne connaît encore.
Mais oui, qu'il faut chercher et tester. C'est toute la beauté de ce métier qu'est un cuisinier. C'est-à-dire que c'est d'associer des textures, des saveurs et nous faire voyager, nous, en tant que simples consommateurs. Et il y a encore plein de choses à découvrir. Je dis souvent, c'est triste on a l'impression qu'on va nous faire manger ces yaourts pêche abricot, ou fraises framboises, ou chocolat pistache, toute notre vie. Est-ce qu'on peut pas passer à autre chose, quoi? Même si chocolat pistache, c'est très bon, mais On peut, je pense, découvrir de nouvelles associations.
Alors, comment on fait ça? Pour pas y aller complètement à tâtons, là encore, le chimiste a son mot à dire.
La science peut aider, modestement, un cuisinier ou même quelqu'un de l'agroalimentaire, d'ailleurs, à proposer des nouveaux accords. L'idée, c'est d'aller cartographier les aliments. Et alors, on parlait tout à l'heure des fraises ou alors de la vanille qui contient 300, 350 molécules. Donc, on va passer, on va analyser une fraise, par exemple, et puis on va regarder toutes les molécules sapides, c'est-à-dire qui donnent du goût, d'une fraise. On va faire la même chose avec de l'ananas, et on va se rendre et avec comme ça tous les aliments. Et on va se rendre compte, par exemple, que fraise et ananas ont plein de molécules communes. Donc, si vous mangez de la fraise et de l'ananas en même temps, eh bien, vous allez exciter les mêmes récepteurs. Donc, il va y avoir un seul message cohérent au cerveau, et lui va dire message cohérent, accord parfait. Et de la même façon, rose, framboise et litchi, le fameux macaron d'Ispahan de Pierre Hermé, ça fonctionne. Mangue, passion, ça marche aussi. Et justement, chocolat, pistache ou pêche abricot, ça marche aussi. Mmh. Parce qu'à chaque fois, ce sont des molécules qui sont communes dans deux produits et donc un seul message. Et donc à partir de là, eh bien, on va pouvoir regarder toute cette base de données et se dire, mais le chocolat, ça marche avec la menthe. On le sait. Mais ça marcherait aussi bien avec le concombre qui a plein de molécules communes.
Donc ça, vous conseillez à nos auditeurs, comment ça se passe? On fait quoi?
Chocolat concombre,
chocolat chaud que l'on fait couler un coulis de
ça peut être une petite ganache. Non, vous partez par exemple sur une ganache au chocolat, une mousse au chocolat, mais au lieu de servir ça avec une petite gelée de menthe, essayez une gelée de concombre. Ouais. Juste un petit jus de concombre, par exemple. Mais vous avez fraise ananas et poivre timut, c'est un poivre un peu sympa qui se trouve maintenant partout. Essayez des fraises avec un peu d'ananas, un petit peu de poivre dessus, et c'est juste magique et c'est inédit.
Gabriel vous demande sur la page de l'émission pourquoi l'odorat et la perception des saveurs sont altérés dans l'espace en apesanteur. Déjà, est-ce que c'est vrai?
Alors, c'est vrai, c'est très juste. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en apesanteur, vous n'avez pas de gravité. Et donc, vous n'avez pas ce qu'on appelle la rétro-olfaction. Donc, les molécules, si vous ouvrez une boîte de conserve sur Terre, tout de suite, les molécules les plus fragiles s'évaporent, montent dans le nez et vont commencer à tourner et vont exciter vos récepteurs. Dans l'espace, il n'y a aucune raison qu'elle monte. Il n'y a pas de convection. Donc, ça sent moins. Et donc, il va falloir augmenter les saveurs. Par exemple, qu'on travaille. Alors, on a eu la chance avec Thierry de travailler pour Thomas Pesquet.
Et, l'astronaute, donc.
L'astronaute, ouais, bien sûr. Et donc, c'est Thierry qui a élaboré les recettes. Moi, j'ai juste regardé et suivi un petit peu. Et bien, il va falloir surdoser, surpoivrer, parce qu'on perd énormément de goût. Il faut savoir que c'est comme quand vous êtes enrhumé, vous bouchez le nez, bah, vous sentez quasiment plus rien.
Allez, une idée de recettes. Il y en a une dizaine à la fin de votre livre, qui n'est évidemment pas uniquement un livre de recettes, c'est un petit bonus à la fin.
Oui, c'est un bonus que je voulais
faire. Quelques recettes, vous nous en donnez une en bonus à nous aussi de ces recettes.
Allez, une recette justement sur des associations de saveurs originales, par exemple les huîtres. On a tous envie de faire des bonnes huîtres, et puis là, c'est le drame, parce qu'on se dit soit c'est jus de citron, soit c'est vinaigre échalote. Bon, est-ce qu'on peut pas passer à autre chose? Eh ben moi, je propose huîtres, saké, litchi. Et vous allez voir que c'est assez magique parce que, alors, soit vous faites des encapsulations, soit vous simplement un jus de litchi avec un peu de saké. Et là, vous allez avoir des accords assez merveilleux. D'abord, ça s'accorde bien parce qu'il y a plein de molécules communes. Et puis, vous allez avoir un côté très floral avec le litchi. Vous allez avoir un côté un peu volatile qui va remonter justement dans le nez. On parlait de la rétro-olfaction avec le saké. Et puis, ça va contrebalancer, mais avec justesse, l'iode. Et puis, le côté un peu gras de l'huître. Donc, c'est très, très complet comme saveur. Il y a de l'umami, il y a un peu de sucre, un peu de sel, un peu. C'est merveilleux comme association. Donc, une recette parmi les 10.
Pour les curieux qui auront envie de tester. Thomas vous demande sur Internet, à quel moment faut-il saler les aliments? Quelle différence entre saler en début ou en fin de cuisson?
Alors, ça dépend des aliments. Par exemple, si vous cuisez des pâtes, du riz, des choses comme ça, moi, je conseille de saler dès le début pour laisser le temps à l'eau salée de rentrer au cœur du riz ou des pâtes. Il faut savoir que le riz et les pâtes, ça prennent 3 à 10 fois leur volume. Donc, autant donner du goût à ce volume qui augmente. Le steak, par exemple, on a vu qu'il n'y avait pas d'effet, il n'y a pas plus de perte d'eau quand vous cuisez un steak aller-retour comme ça, si vous salez au début ou à la fin de cuisson. Donc, moi, je conseillerais plutôt de mettre des cristaux de sel juste à la fin, où là, vous allez un peu exciter les papilles avec ce petit croustillant de la fleur de sel qui est plus intéressant, à mon sens, qu'une viande sursalée dès le début.
David nous dit « Je suis oléiculteur dans l'Hérault. Est-ce que votre invité peut expliquer pourquoi l'huile d'olive et la glace à la vanille se marient si bien ?» C'est vrai ou pas ?
Voilà, food pairing. C'est-à-dire, c'est des associations de saveurs. Il y a plein de molécules communes dans la vanille et dans l'olive. Et effectivement, alors ce sont ce qu'on appelle des notes tanniques. Et donc vous allez avoir ces profondeurs en bouche et vous allez retrouver de très très nombreuses molécules dans l'olive et dans la vanille. Et ça, je vous conseille vraiment de faire des tests comme ça de gâteaux, par exemple, huile d'olive, vanille.
Merci Raphaël de nous avoir régalé. Votre livre s'intitule Les papilles du chimiste. Il est paru aux éditions Dunod. Merci à vous.
Merci.
Et merci à Elisabeth Collet et Paul Percheron qui étaient à la technique aujourd'hui. À quoi pensent les bébés? Ce sera la question du dossier de la tête au carré. Demain, nous verrons ce que savent les scientifiques de ce qui se passe dans la tête d'un petit humain dans les premiers mois de son existence.